Bonjour, bienvenue à Erratum, le balado à écouter sans faute. Mon nom est René Routema. Tout d'abord, je vous remercie pour votre écoute, ça me fait chaud au cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'épisode de la semaine dernière. Je vous ai dit que le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, était en danger. Il est encore en danger cette semaine. À cet égard, j'ai été surpris, mais pas surpris en même temps. Le premier ministre François Legault, sur Twitter, lui a réitéré sa confiance en disant qu'il était un bon ministre. Et je me permets de le citer, que ça fait longtemps que le Québec n'avait pas eu un ministre de l'Éducation aussi passionné et qualifié pour l'emploi. Donc, ça fait plusieurs fois que le Premier ministre est à sa défense. Ça démontre sans doute que le ministre est donc en danger. Et je pense qu'il y a une commande qui est venue du bureau du Premier ministre qui a invité, peut-être forcé, M. Roberge à nous faire une confession le même jour sur Facebook. Dans cette confession-là, il nous a partagé qu'il vivait les moments difficiles, que c'était difficile d'être ministre de l'Éducation, que les critiques l'atteignaient, et que c'est ma lecture, qu'il restait droit dans ses bottes, comme disent les Français. Je vous rappelle qu'il y a un premier ministre français qui avait dit ça, qui restait droit dans ses bottes, mais il a été démissionné quelques mois après. Il s'agit de M. Juppé, qui était venu enseigner ici au Québec. Bref, M. Roberge doit absolument, s'il veut garder son poste, réussir la semaine de relâche et arriver à conclure, à dialoguer avec les syndicats, parce que c'est très difficile et plusieurs syndicats réclament sa tête. Je dois vous avouer que je comprends la compassion du premier ministre à l'endroit de son ministre. Comme vous le savez, M. Legault a été ministre de l'Éducation quand il était encore péquiste. Donc, pour revenir à son tweet, dans lequel il disait que Roberge était un bon ministre, peut-être que M. Legault, probablement, doit croire qu'il a été le meilleur ministre de l'Éducation de l'histoire du Québec, et que M. Roberge est le deuxième. Cela étant dit, revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais revenir sur la conférence de presse du premier ministre la semaine dernière. Dans cette conférence de presse, il nous a appris qu'après une réunion de son caucus, qu'il allait respecter tous ses engagements électoraux. Mais, je l'ai réalisé donc après le dernier épisode, j'ai constaté qu'il avait oublié de nous parler d'une promesse phare de sa plateforme électorale. Et cette promesse, c'était la réforme du mode de scrutin. Il n'en a pas parlé dans sa conférence de presse, alors qu'il disait, dans la même conférence de presse, qu'il allait respecter tous ses engagements électoraux. Je pense que j'ai la réponse. Je propose de répondre à cette question dans cet épisode. Je vais donc vous parler aujourd'hui du mode de scrutin que nous avons, du mode de scrutin que les politiciens nous proposent quand ils sont en campagne électorale. Et finalement, je répondrai une fois de plus à la question, à savoir pourquoi nos politiciens ne veulent pas réformer le mode de scrutin que nous avons. En premier lieu, on discute de la réforme du mode de scrutin, du moins au Québec, depuis 1922. Et depuis la Révolution tranquille, il y a eu 7 consultations pour le réformer. Donc, ça fait un certain temps. Donc là, ça m'amène à vous parler du mode de scrutin que nous avons. Il s'agit du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui signifie que le député qui a le plus de voix, c'est lui qui gagne son siège au Parlement. Son mode électoral a plusieurs avantages. En premier, c'est qu'il est simple et facile à comprendre pour les électeurs. Il avantage les grands partis. Au Québec, ça a été longtemps le Parti québécois, le Parti libéral du Québec. À Ottawa, c'est toujours le cas. C'est le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur. Deux partis qui sont habitués à se partager la tarte politique, qui est secret en passant. Et aussi, son mode de scrutin garantit un gouvernement stable. Donc, quand on élit un gouvernement, il va rester au pouvoir pendant 4 ans. Donc, nous avons la paix avant la prochaine élection. Et notre avantage qu'on ne peut pas sous-estimer, c'est que ce système ne permet pas aux partis que je pourrais qualifier d'extrême droite ou d'extrême gauche, pour faire plaisir à mon ami qui vient de France. Donc les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche n'ont pas de siège au Parlement, ce qui est un avantage. Par ailleurs, il y a un des avantages importants de ce système, c'est que la conversion des votes en sièges est injuste. L'exemple que nous connaissons au Québec, c'est que en 1998, lors de l'élection générale, c'était juste après le référendum. Donc, on avait deux politiciens redoutables. Jean Charest, qui dirigeait le Parti libéral du Québec, Lucien Bouchard, qui dirigeait le Parti québécois. Donc, lors de cette élection, le Parti libéral, avec 43% des suffrages exprimés, a obtenu 48 sièges. Et le Parti québécois, avec 42% des suffrages, a obtenu 76 sièges. Donc, le Parti québécois, avec moins de votes, a pu former un gouvernement majoritaire. Ça semble contraire à l'esprit même de la démocratie. Pour corriger cette anomalie, les partis politiques, lorsqu'ils sont dans l'opposition, nous proposent de réformer ce mode de scrutin, donc injuste, lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Le mode de scrutin qu'ils nous proposent s'appelle proportionnel. Son principe de base, c'est la représentation proportionnelle de sièges au Parlement en proportion des votes exprimés par la population. Ses avantages. Le premier avantage qui est primordial, c'est que son mode de scrutin est plus démocratique. Il donne aussi une image fidèle de la situation politique au Parlement, favorise le multipartisme. Donc, on n'a pas juste deux partis qui se partagent au pouvoir. Plusieurs partis peuvent siéger au Parlement. Et aussi, donc, plusieurs partis au Parlement, ça appelle la coopération entre divers partis politiques. Son défaut principal, c'est que il produit souvent des gouvernements instables. Pourquoi? Parce que plusieurs partis qui aspirent au pouvoir doivent négocier pour former un gouvernement qui va diriger un pays. Et un petit parti, par exemple, pourrait imposer des conditions importantes à un parti dominant pour permettre à ce parti d'être au pouvoir. Deux exemples. En Israël, on aura une autre élection en mars, ce qui fera 5 élections en moins de 2 ans. C'est instable et ça coûte cher aux contribuables. En Belgique, qui ont donc ce même système, Je peux vous dire que en 2011, pardon, il s'est passé 541 jours sans gouvernement. Et l'année dernière, 500 jours sans gouvernement. Imaginez-vous au Québec, si le Parti québécois est au pouvoir, perd l'élection au profit du Parti libéral et le Parti libéral n'arrive pas à former un gouvernement. Pour former un gouvernement, donc le chef du Parti libéral doit négocier avec un parti, disons, comme Québec solidaire. Donc, ces deux visions différentes et trouver un compromis est difficile. Et pendant ce temps-là, c'est au Parti québécois que nous avons dégagé qui continuerait à diriger les affaires courantes, à conduire les affaires courantes, pardon, pendant plus d'un an. Une autre lacune de ce système, c'est que il ne permet pas aux partis politiques de réaliser leurs promesses parce qu'ils doivent faire des compromis pour former un gouvernement avec notre parti, même s'ils ont des visions différentes de l'avenir du pays. Pour finir, pourquoi les politiciens qui nous promettent de réformer le mode de scrutin pendant qu'ils sont en opposition ou en campagne électorale, une fois au règne, ne respectent pas leurs promesses? Retournons au siècle dernier, le siècle durant lequel René Lévesque, un politicien aimé, estimé, avait promis les changements dont on parle, mais quand il a proposé le projet à son caucus, à ses députés, ils ont refusé. Carrément, ils ont dit non. Et il est sorti dans une conférence de presse pour exprimer qu'il ne fera pas la dite réforme. Et je le cite, il faut exclure à quelques mois des élections qu'on puisse littéralement jeter la population dans un ajustement des chambardements. J'aime beaucoup René Lévesque et je vous laisse la liberté d'en tirer vos propres conclusions. Après le règne de M. Lévesque, M. Bourassa ne voulait rien savoir de cette réforme-là, M. Bouchard non plus. C'est Bernard Landry, en revenant au pouvoir, qui a voulu réformer son même mode de scrutin. Mais lui aussi, il s'est heurté à la comment je dirais ça? Bref, ces députés ne voulaient rien savoir de ça, carrément. Monsieur Charest, qui a succédé aussi à Monsieur Landry, qu'il a pris le pouvoir, il avait en mémoire l'élection de 2018 qu'il avait perdue au mains de Monsieur Bouchard, comme je l'ai dit auparavant. Il a voulu réformer le mode de scrutin. Il a présenté le projet à son caucus et semble-t-il, pendant un des caucus, les mots vulgaires, les saints du paradis ou de l'Église catholique sont sortis. Finalement, Jean Charest a cédé à la pression de ses députés et il a abandonné le projet. Plus récemment, à Ottawa, Trudeau 2 aussi, en 2015, nous avait promis que cette élection-là serait la dernière sur le mode de scrutin actuel. Quelques mois après sa victoire, il nous a dit qu'il n'y avait pas de consensus pour l'effectuer. Revenons à Québec. Monsieur Legault, son excuse, c'est que le directeur général des élections lui aurait signifié qu'il n'avait pas le temps de mettre en œuvre cette réforme avant les prochaines élections, ce qui faisait l'affaire de Legault. Et l'astuce de Legault aussi, je dois le souligner, il veut proposer aux Québécois un référendum sur ce sujet. Parenthèse, Monsieur Legault est un ancien ministre du Parti québécois. Et nous savons que le Parti québécois aime les référendums. Et je suppose que M. Legault aussi, dans son ADN politique, il y a encore le référendum. Revenons à nos moutons. Donc, ce référendum demanderait aux Québécois s'ils veulent changer le mode de scrutin, oui ou non. Habile politicien que M. Legault, il se doute que les Québécois diraient non, car le même référendum a eu lieu à l'île du Prince-Édouard, en Colombie-Britannique et en Ontario, et les habitants de ces trois provinces ont dit non. En vérité, cette promesse éternelle de nos élus, peu importe le parti, est ce que j'appellerais de la gourmandise du pouvoir, ou eux, de l'avarice du pouvoir. Je m'explique. Les élus ne changeront jamais un système qui a permis de les élire. Aucun élu ne souhaite devenir l'agneau du sacrifice. Pourquoi? Parce que durant une campagne électorale, les gens, les hommes politiques, les femmes politiques, mettent leur visage sur un panneau, se battent pour un chef, pour un parti, et là, une fois arrivés au pouvoir, on ne va pas leur dire qu'ils doivent céder leur siège. Ils sont bien payés, relativement bien payés, ils ont une bonne pension et ils ont la reconnaissance. Pourquoi je céderais mon siège? Donc, c'est pourquoi que cette réforme me semble être un chemin pour tout chef ou premier ministre. À mon sens, cette réforme aura lieu quand les poules auront des dents. En tout cas, sur ce, merci d'être à l'écoute, merci pour votre fidélité et je vous souhaite une très bonne semaine politique. À la semaine prochaine.